Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse du jour, encore la difficile question du déficit public et comment le résorber. On cherche des économies.
Le titre des Échos résume tout. Déficit, les choix impossibles de l'exécutif avant les européennes. Il faut trouver de l'argent pour contenir le dérapage des finances publiques, mais où en prendre sans susciter un tollé et donc perdre des voix. La majorité et le gouvernement veulent rester prudents sur les pistes d'économie pour ne pas alimenter le vote RN, écrivent les Échos. Le Parisien rappelle qu'il faut trouver beaucoup d'argent. Opération 20 milliards, titre le journal. Et il rappelle aussi qu'Emmanuel Macron a convoqué mercredi un dîner de travail à l'Élysée autour d'un plateau de fruits de mer. En cuisine au moins, il n'y avait donc pas de problème de recette. Rigueur ou chaos, le piège budgétaire se referme, titre l'Opinion. C'est la même image en une du Monde. Macron pris dans la nasse des déficits publics. Le Figaro lit clairement l'enjeu budgétaire à l'enjeu politique. Macron, mauvais sondage et mauvais compte.
Le président qui semble toujours déterminé à ne pas augmenter les impôts.
C'est ce qu'il aurait dit durant ce fameux dîner. Un des convives confie néanmoins aux Échos qu'il n'a pas tout compris. C'était bizarre ce dîner. Le président n'est pas entré dans les détails. On est sorti avec encore moins de certitude qu'à l'arrivée. En tout cas, chaque solution a ses adversaires. Faut-il serrer la vis aux collectivités territoriales? C'est l'inquiétude des élus locaux, titre aussitôt Ouest France. Des milliers de communes sont déjà au bord du gouffre, crie-t-on à l'Association des maires de France. Alors, doit-on réduire l'indemnisation du chômage? Dans les Échos, le directeur général de France Travail prévient, en cas de coup de rabot, le retour au plein emploi serait menacé. Alors la Croix se demande, faut-il faire payer les retraités? Eh bien la réponse semble plutôt non, car ils sont le cœur de l'électorat macroniste. C'est pourquoi l'idée d'augmenter les impôts finit toujours par revenir à la fin. Ce serait une capitulation, avertit cette fois l'Opinion, et Ouest France rappelle d'ailleurs que le taux de prélèvement obligatoire de la France est de loin le plus élevé d'Europe.
L'augmentation des impôts, un tabou d'Emmanuel Macron, on en parlera avec les esprits libres tout à l'heure. Si les problèmes budgétaires empêchent Emmanuel Macron de dormir, il pourra feuilleter utilement Science et Avenir.
Le mensuel consacre un excellent dossier au nouveau traitement pour vaincre l'insomnie. L'idée de compter les millions au lieu de compter les moutons n'est pas suggérée au président, mais on apprend que 15 à 20% des Français ont des problèmes de sommeil, dont 9% ont une forme chronique et sévère d'insomnie. Science et Avenir nous enseigne que bien dormir s'apprend. Il faut se lever à heure fixe, éviter les écrans une heure avant le coucher, ne pas surchauffer sa chambre, etc. Il est surtout question d'un nouveau médicament, le Quvivic, qui n'est pas un somnifère mais un coupeur d'éveil, dit le journal, qui respecte les phases de sommeil profond et réduit les risques d'accoutumance. Science et Avenir vante aussi les bienfaits des thérapies cognitives. Un de ces journalistes, qui était insomniaque, a testé la méthode. On ne dort pas forcément comme un bébé, explique-t-il, mais on sait comment s'y prendre.
Il faut aussi bien choisir son oreiller. Hein.
Moi, Sans aucun doute.
Je change jamais d'oreiller. Est-ce pour mieux dormir qu'Emmanuel Macron pratique la boxe? Un quotidien suisse a une autre hypothèse.
C'est le Tages Anzeiger de Zurich, et on trouve une traduction de cet article dans Courrier International. L'image du président diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, dents serrées, poings gantés, le biceps tendu à l'extrême, a intrigué et amuser le journal. La photo est-elle retouchée pour accentuer le gonflement du muscle? Non, répond le journal suisse. L'image est authentique, les experts le disent, pas de traces d'intelligence artificielle dans ce cliché. Mais cette pose, façon Rocky, colle parfaitement avec les mises en scène tout aussi macho de Vladimir Poutine, au moment où le président français durcit le ton, comme s'il voulait se mesurer personnellement à son homologue russe, dans une sorte de corps à corps. Et le Tages Anzeiger rappelle qu'on a vu Vladimir Poutine en judoka, en joueur de hockey ou à cheval, torse nu. Emmanuel Macron ne va pas jusque-là, mais le Wall Street Journal se moquait la semaine dernière d'autres photos de lui en sweatshirt à capuche des forces armées françaises, et il lui reprochait alors d'imiter Volodymyr Zelensky. Ces critiques-là, elles, ne doivent pas empêcher Emmanuel Macron de dormir.
Libération publie dans son édition du jour un long article sur les récents incidents à Sciences Po Paris.
Deux journalistes du quotidien explorent encore les coulisses de ce qu'ils appellent, je cite, « la polémique autour d'un événement en soutien aux Palestiniens », alors que les accusations d'antisémitisme n'ont pas encore été éclaircies. Le ton est donné. Rappelons qu'un amphi de Sciences Po a été occupé et orné de drapeaux palestiniens pour un happening de protestation contre les bombardements israéliens à Gaza. Titre de Libération, à Sciences Po, la Macronie mène son offensive anti-woke. Et on lit ceci. Le feu couve dans l'école des élites depuis que le Premier ministre s'est invité devant le conseil d'administration. Depuis l'irruption de Gabriel Attal et sa phrase d'avertissement « le poisson pourrit toujours par la tête », certains étudiants dénoncent une ambiance tendue, écrit Libération. Un administrateur de Sciences Po dénonce un coup de com' du Premier ministre. Tout est donc de la faute de Gabriel Attal.
Ouvrons une parenthèse, au lendemain des massacres du 7 octobre, c'était silence radio chez les étudiants de Sciences Po. Libération va jusqu'à reprocher à Gabriel Attal d'avoir attisé une situation inflammable.
Et oui, tout est de la faute du Premier ministre qui aurait profité des désordres à Sciences Po pour faire un coup de com'. Il y avait un côté un peu gaullien dans l'exercice. Grince un administrateur de l'école. Face à la chienlit, l'exécutif est là pour remettre les choses en place. Notez donc qu'à Sciences Po, aujourd'hui, gaullien est devenu un terme péjoratif. Gaspard Ganzer, l'ex-conseiller en communication de François Hollande, dénonce une précipitation invraisemblable du Premier ministre qui n'attend pas d'avoir une vision entière de la situation. À lire le récit du point sur la contagion antisémite à Sciences Po cette semaine, on a une vision quand même assez complète. Des cours sur la différence entre les sexes sont annulés, des affiches sur les otages israéliens sont arrachées. Sur une boucle WhatsApp entre étudiants, une élève envoie ce message « Avec ce qui se passe, la moindre des choses, c'est de vous faire discret. C'est qui, vous ?» interroge quelques-uns. Réponse de la signataire « Les sionistes ». Le point cite des témoignages d'étudiants et de profs sidérés par la dérive en cours à Sciences Po. Face à de tels actes, à de tels mots, il ne faut pas s'endormir.
Et ils n'ont pas encore interviewé les anciens de Sciences Po qui sont pas contents du tout de ce qui se passe à l'Institut d'études politiques. Merci Hervé. On vous retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. À suivre nos esprits libres. Cécile Cornudet et Jean...